quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, c'est de la merde.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Et bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Damien, je suis accompagné de Corentin. Bonsoir Corentin.
Bonsoir et Damien.
On est le 8 juin, donc on enregistre en avance cet épisode, la 105e émission de L'œil carnivore. Vous êtes sur le 105.4 de Radio Panique. Et ce soir, nous vous proposons de petites découvertes, que ce soit en jeu vidéo, en podcast, en série. Et surtout, on va se poser la question, et pourquoi sont-ils si méchants? À travers le tag, hein, on va dire ça comme ça, mais l'expression Magneto avait raison. Et le film Across Spider-Verse, le dernier Miles Morales qui vient de sortir. C'est ça ?
Exactement, tout à fait. Ben,
fantastique. Et donc, ce soir, moi, je propose de commencer par tes découvertes podcast que tu voulais nous partager. Je reprends la conduite de l'émission, ça sera plus simple pour voir ça. Et tu voulais nous parler de deux podcasts. Le premier, c'est L'heure indue de Johan Rock, ou Roquet,
oui,
comment dire ?
Rock. Je pense que c'est Rock, ouais.
D'accord.
D'après mes informations.
Et un autre podcast qui s'appelle Un bon moment avec Kian Kojandi et Navo.
Exactement.
Alors, c'est quoi comment ?
Alors, en fait, j'ai découvert le premier que tu as cité par le deuxième que tu as cité. Donc, j'ai vu que Kian et Kojandi, donc de Bref, que les gens connaissent principalement pour Bref, et Navo, qui est son co-auteur et ami de longue date, avaient sorti un podcast sur Alexandre Astier, qui est un bonhomme que j'aime beaucoup entendre parler, que je trouve très intéressant et pertinent. Et donc, j'ai écouté ce podcast qui m'a mené au suivant, L'heure indue, parce qu'il a aussi fait un podcast avec Astier. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans le premier, donc dans Un bon moment, c'est que c'est vraiment... Le nom représente très bien. Je ne sais pas si tu as déjà vu certains de ces épisodes.
Alors, je n'ai totalement vu, mais je crois que j'en ai vu un bon paquet, si ce n'est pas tous. Non. Donc, effectivement, je connais depuis de longues dates un bon moment. Et oui, on passe un très bon moment avec Kian Kojandi et Navo. Alors, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, Kian Kojandi et Navo, c'est ceux qui sont derrière Bref. Mais c'est aussi des humoristes. Navo a écrit pour énormément d'humoristes. Et le principe d'un bon moment au départ, c'était vraiment d'inviter d'autres humoristes à parler du métier d'humoriste. Et puis évidemment, au bout d'un moment, ça s'est finalement ouvert à Astier notamment, etc.
Oui, on a eu... le podcast que j'écoute pour l'instant, c'est avec Pierre Cross et Amixem. Donc, qui sont quelque part dans l'humour aussi, mais c'est plutôt des créateurs de contenu de YouTube. Donc, c'est pas vraiment des humoristes. En tout cas, c'est pas leur métier d'être. Leur métier principal n'est pas de faire rire. C'est plus de créer du contenu divertissant sur Internet. Donc, c'est vrai, comme tu dis, ils sont assez ouverts, mais c'est très agréable à écouter, en fait. Ça s'écoute tout seul. C'est une conversation de potes, en fait. C'est vraiment ça qu'on ressent, avec des moments où ça part très loin dans des délires. Comme toi, tu pourrais avoir un pote, on lance tout d'un coup un débat et on commence tous à se dire mais c'est pas possible. Et si, imagine que... Et tu commences à élaborer des théories incroyables et farfelues, notamment justement celui avec Astier, où ils commencent à s'imaginer qu'ils peuvent créer une secte, en fait, qu'ils auraient les capacités de leadership de créer une secte, etc. Et donc, ça part très très loin et c'est très agréable à écouter. Voilà, après, je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu les as écoutés en podcast ou tu as vu les vidéos ?
Alors moi, je les ai plus vus sur YouTube, en fait. Je les ai vus en vidéo. Alors, il faut savoir quand même qu'ils trichent un peu. Ça veut dire qu'ils sont loin du podcast amateur comme celui qu'on peut faire à l'heure actuelle. Ouais. Parce que derrière, il y a Canal+, ça aide. Donc, ils ont des vrais moyens de production. En plus, bon, je veux dire, c'est pas des lapins de 3 semaines. Hein. Ils connaissent le métier, ils savent écrire. C'est quand même monté, même si ça a l'air d'être du délire, etc. Il y a quand même beaucoup de montage qui est derrière. D'ailleurs, il y a un jeu, alors je ne sais pas s'ils le font sur les dernières, mais il y avait un jeu où dans le montage et dans ce qu'ils disaient, il y avait plein d'indices que tu pouvais suivre pour essayer de décortiquer et gagner quelque chose à la fin. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'ils ont suffisamment d'argent pour être bien produits, donc le son est correct, le décor, quand on le regarde sur YouTube, bah, c'est chouette. C'est un chouette décor. Ouais, tout le monde aimerait bien avoir ce décor pour faire du podcast. Ça serait génial. Mais au-delà de ça, c'est effectivement un très bon podcast, une très bonne émission où on a pendant, on va dire, une heure à peu près, une interview qui part sur plein de...
Plus que ça. Hein.
Généralement, ouais, mais c'est une heure et demie, pas beaucoup plus. Hein. Parce qu'en plus, ils les enchaînent. Il faut savoir quand même quand oui. Ils les tournent, ils enchaînent en fait les interviews. Donc évidemment, au bout d'un moment, ils sont moins frais. Mais bon, c'est des pros et ils savent ce qu'ils font. Donc ça se sent pas trop. Et c'est vrai qu'on aimerait discuter avec eux. On aimerait être
oui,
là,
on a quoi. Envie de. Oui, mmh. On a envie d'être à table avec eux. Mmh. Et après, au-delà du côté un peu bon enfant qu'on a dans ces conversations de potes, il y a un certain moment où on va très profondément en fait dans des réflexions. Je pense notamment à deux podcasts qui m'ont vraiment très accroché parce que ce sont des personnages déjà de base qui m'intéressent énormément. Mais voilà, c'était celui avec Jérémy Ferrari. Où il parle de son alcoolisme, de son addiction, de ses problèmes psychologiques et psychiatriques. Et ils vont assez loin dans toutes ces choses-là. Et je trouve ça vraiment intéressant. On apprend. C'est pas juste on entend des gens raconter des anecdotes de tournage ou des choses comme ça. On apprend vraiment des choses sur plein de choses. Donc c'est très édifiant, mm-hmm. Je trouve.
Oui, oui. C'est ça qui est aussi effectivement intéressant. C'est que c'est pas juste une interview sur « Alors, c'est quoi ton prochain projet ?» et « Raconte-moi l'anecdote de ton truc. » Non, non, on est sur... en fait, quelque part, les obsessions de Kian, c'est qu'est-ce que c'est que la création, comment on crée, ouais. Comment t'en es arrivé là, mais pas juste raconte-moi ton histoire, mais voilà, qu'est-ce qui te motive réellement, comment tu fais pour quand ça va pas, comment tu fais, etc. Donc vraiment, c'est intéressant et effectivement, on apprend beaucoup. On apprend aussi, et c'est ça qui est chouette, c'est que ces gens qu'on pourrait admirer quelque part aussi, parce que, je veux dire, mine de rien, il y a des gens très très doués, comme tu parles d'Astier, par exemple, etc. On voit par rapport à ses parcours et aux questions que pose Kian, que bah, c'est pas forcément facile tous les jours, et que surtout, le coup, il n'a pas été simple. Il fallait croire à son étoile, et c'est ça qui est intéressant aussi. Ça veut dire, on voit vraiment l'homme fait artiste, l'homme ou la femme fait artiste, ouais. Etc. Et on voit toute la difficulté de réussir à créer, quoi.
Mais pour revenir sur justement Amixem ou Pierre Cross, je trouve que c'est très intéressant, c'est un podcast que les gens qui ont envie de se lancer sur YouTube ou dans la création de YouTube ou même de TikTok ou autre, beaucoup de jeunes ont l'impression que c'est finalement très facile de faire une vidéo et que voilà. Et en fait, en les entendant, on se rend compte que c'est presque avant d'être des créateurs de vidéos, des créateurs de contenu, peu importe comment on appelle ça, ce sont des entrepreneurs qui bossent d'arrache-pied, qui ne vivent que pour ce boulot-là et qui parfois, bah, c'est 7 ans de travail acharné pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Donc c'est pas je fais le pitre avec mon téléphone comme ça sans réflexion. Il y a un vrai travail, il y a un développement qui crée des emplois, c'est une énorme machine, hein, qui demande beaucoup de travail. C'est pas aussi facile et aussi reposant que certains peuvent l'entendre. Donc ouais, on apprend vraiment, vraiment des choses. Donc, ouais, oui. je recommande.
Et franchement, c'est encore plus dur maintenant de réussir à percer avec du contenu, etc. C'est une horreur intersidérale, les contenus. Et d'ailleurs, on voit bien le burn-out de certains créateurs de contenu.
Notamment parce que les... Carizo.
Oui, par exemple, mais t'en as plein d'autres, hein. Et sur Twitch aussi, parce que les plateformes changent leurs règles, changent leurs recommandations, et puis que, bah, en fait, tu te retrouves à faire des heures et des heures et des heures pour gagner des clopinettes. C'est ça le souci, ça veut dire qu'effectivement, tu peux gagner ta vie si derrière, t'as une boîte quelque part qui te finance. Alors, soit si t'es très connu déjà, et donc là, tu peux vite trouver des partenaires, soit parce que t'as des gens qui signent les contrats pour toi en fait, hein. Et ouais, bon, bah tu deviens homme sandwich quelque part, plus ou moins voulu. Voilà, mais ça fait partie du jeu.
Ils le disent, hein, c'est clairement c'est plus les placements de produits qui font tourner leur chaîne, ou en tout cas les vidéos sponsors, etc. Mm-hmm. Qu'en soi le watch time, les likes ou ce genre de choses. Quoi.
C'est le cas de YouTube, ouais. Clairement. YouTube, c'est effectivement le gros problème de YouTube. C'est pas YouTube qui te paye. Même si tu fais 1 million de vues, tu vas faire... Alors, je sais plus, là, il y avait un YouTuber qui a partagé, il a fait 300 000 vues, il a touché 800 euros. Voilà. Donc, il faut en faire, hein, des vues. Et 300 000 vues, il faut les sortir. Hein. C'est pas n'importe qui fait 300 000 vues sur une vidéo. Voilà, c'est pas... Donc, c'est clairement, si tu veux gagner ta vie en faisant suffisamment de vues et en tournant, etc., bah, il faut du sponsoring. Mais pourquoi pas ? Si c'est bien fait, moi, je suis pas forcément contre. Le problème, c'est qu'on ne dit pas que tu es sponsorisé pour dire du bien de tel ou tel produit. Quoi.
Non, voilà. Clairement.
C'est pour ça que généralement, je refuse d'ailleurs les différentes offres. Notamment, en fait, moi, on avait eu cette discussion avec le site dont tu faisais partie avant, qui était Comics Prime, ouais. Où le fait de recevoir recevoir les bandes dessinées, bah, quelque part, tu es quasi obligé d'en parler. Et c'est compliqué de le descendre complètement, même si tu n'as pas aimé. Donc, c'est toujours compliqué. Même les dons de ce type-là.
Oui, tout à fait.
T'as toujours l'attaché de presse qui attend le retour
du article. Clairement. Et donc, pour revenir sur les podcasts, ce podcast du coup m'a amené à l'heure indue, qui a été là par contre vraiment moi, j'ai été subjugué par ce podcast. Donc en fait, c'est présenté par un certain, on parlait à Johan Rock. Alors qui n'aime pas qu'on l'appelle journaliste, mais bon, il a fait des émissions, enfin il a fait pas mal de choses, etc. dans les médias, donc on pourrait le qualifier de journaliste, mais il n'aime pas cette étiquette. Et en fait, le concept, c'est qu'il part la nuit avec des personnalités. Donc ça peut être Astier, mais ça peut être il a eu qui récemment, il a eu Anthony Cavana, il a eu Jean Lassalle, Clara Morgan, Frédéric Taddeï, Patrick Pelou, Bruno Salomon et Bruno Solo. Donc voilà, il y a du politique, il y a du actrice porno, il y a de l'humoriste, il y a du réalisateur, il y a de tout. Et donc il les amène, et ces gens ne savent pas quel est le programme de la soirée. Et ils vont se promener dans Paris de nuit. Et ils vont juste se laisser aller. Et il va y avoir de l'improvisation. Il va y avoir un moment, bah, tiens, on y va à pied, on y va, on loue une trottinette. Ou est-ce qu'on prend un taxi? Ou est-ce qu'on prend le métro? Tiens, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on va? Tiens, on rencontre cette personne-là qui est intéressante, qui est amusante. Allons parler avec. Sortons de notre zone de confort. Et ça m'a fait un petit peu penser à l'émission belge, pour ceux qui connaissent, Hep Taxi. Sauf que là on connaît le client entre guillemets connaît sa destination, c'est où il va, mais il y a cette espèce d'aspect effectivement où c'est aussi des conversations qui sont mues par la situation en elle-même, par l'endroit où ils se trouvent, qui vont les amener à des sujets. Et je trouve ça très intéressant. Bruno Solo, par exemple, ils ont été se promener dans Paris, ils ont été près du Moulin Rouge, puis ils sont rentrés avec la voiture de Bruno Solo, ils ont écouté, il a fouillé dans la boîte à gants de la voiture de Bruno Solo pour voir quel CD il avait. Ils sont là, ah, bah tiens, ok, t'écoutes ça, c'est intéressant, et viens, on en parle. Ah oui, bah, quand j'étais jeune, en fait, j'écoutais ça. Donc on part sur des sujets qui sont plus du tout des sujets promotionnels, de je suis un artiste, donc je dois vendre mon travail. C'est sa relation à la vie, à ce qu'on aime, ce qu'on écoute, sa vie de famille. Ah tiens, oui, avant je sortais beaucoup, mais depuis que je suis papa, bah oui, j'ai deux enfants. Enfin voilà. Et Johan Rock, en plus, est un excellent narrateur qui a une voix incroyablement radiophonique. Et il y a des petites interludes à des moments, parce qu'effectivement, ils partent, je crois qu'ils commencent à se rencontrer à 19-20 heures et ça termine à 2-3 heures du matin. Donc on n'a pas l'entièreté. Donc il y a des moments où ça coupe et lui va faire une petite transition. Il va dire de façon très poétique, les lumières s'éteignent, il reste un balayeur seul sur le trottoir, on se demande s'il commence ou s'il termine. Enfin, c'est vraiment presque un texte
Eh
de
bien,
littérature.
tu te donnes envie. Je vais aller
Et voilà,
m'écouter
enfin.
ça. Ça va être parfait, effectivement. Je vais me charger ça. Là, je pars bientôt en voyage. Je vais me charger quelques épisodes alors.
Ouais. Bon, après, toutes les personnes ne sont pas forcément. Moi, Jean Lassalle, c'est pas un personnage qui m'intéresse
Oui, c'est
particulièrement,
ça. Après.
mais la, voilà, la manière dont c'est amené, je pense, peut malgré tout être intéressante.
Alors, j'en profite pour glisser moi ma petite reco podcast. Alors, au-delà de l'œil carnivore, évidemment.
Ça, c'est pas une reco, c'est
c'est une obligation.
Une... Ouais, c'est ça.
Non. C'est l'apéro du capitaine. Est-ce que tu connais l'apéro du capitaine?
On en a parlé. Je crois que
Ouais.
tu m'en as parlé.
Sans doute, sans doute. Très bon podcast. Ça fait des années. Je crois qu'ils existent depuis 2012 ou 2010. Je sais plus. C'est des mecs qui font un podcast dans une cave depuis des années. Moi, j'aime beaucoup. C'était le numéro un sur le high-tech. Il faut voir avec quel type de quel type de news high-tech qu'il faut. Franchement, écoutez-les, c'est sympa, très drôle, avec effectivement plein d'invités complètement différents. Bah voilà, c'est pareil dans le genre l'apéro du capitaine. N'hésitez pas. C'est pas pour les enfants. Voilà, je précise surtout la fin qui est le oiseuf, les trucs les plus absurdes et débiles récoltés par un des chroniqueurs sur Internet, avec toujours le oiseuf insertion qui se termine. Donc, je vous laisse imaginer. Ce n'est pas du tout présent. Voilà. Soyons clairs. Ok, bah super. Et bah, moi, je propose de continuer avec Mechabellum. Un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un jeu que j'ai découvert grâce d'ailleurs à un streamer, ben pas un streamer, un YouTuber qui s'appelle Ikit. Et il teste plein de jeux, il aime beaucoup les jeux de stratégie. Et Mechabellum, c'est un jeu vidéo alors édité par Game River. Ils n'ont pas fait énormément de jeux. Alors, c'est ce qu'on appelle un battle chase, c'est-à-dire qu'en gros, on choisit des unités, on les place,
Ok.
on les upgrade, on leur donne des pouvoirs, machin, etc. Et après, les unités se battent entre elles toutes seules. Et là, on ne peut plus intervenir. Donc, c'est vraiment une sorte de jeu de stratégie. Et là, en gros, bah, c'est des mechas, des gros mechas, plus ou moins gros, etc., qui se battent sur un champ de bataille. Alors, il y a les unités terrestres, évidemment, il y a les unités aériennes. Et pareil, on les place sur le champ de bataille et on va lutter soit contre un autre adversaire, soit contre deux autres adversaires. C'est un 2v2 ou 1v1. Et c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien. Comment dire, penser bien équilibré. Et le but, c'est de faire perdre tous ses points de vie à l'équipe adverse.
Ok.
Plus il te reste d'unités à la fin du combat, plus tu fais perdre de points de vie. Bah, à la fin du round, plus tu fais perdre de points de vie à l'équipe adverse. Donc des fois, ça joue à peu et donc finalement, c'est pas très grave. Et puis des fois, tu gagnes avec des très très grosses qui volent beaucoup de points. Et là, l'ennemi en face mange très fort. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'il y a plein de retournements. Donc c'est pas parce que tu perds trois phases d'affilée que tu peux pas te refaire sur la fin du match. Et surtout, il y a un mode spectateur sur lequel tu peux parier pour telle ou telle équipe. Donc, à mon avis, on peut arriver finalement à un jeu qui pourrait être presque de l'e-sport. Alors, évidemment, c'est pas celui qui va jouer le plus vite qui gagne, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Mais par contre, c'est un peu plus comme un jeu d'échecs. Bah, tu poses tes pions, etc. Et c'est ta stratégie qui va être plus ou moins bonne en fin de jeu. En tout cas, c'est un très chouette jeu, Mechabellum. Voilà, je vous le conseille. J'ai commencé à faire des streams dessus. Sur l'œil carnivore, vous pouvez retrouver, il y a une explication du jeu. Et une... Oui.
Et sur quelle plateforme tu retrouves ce jeu ?
Pour l'instant, sur PC. Okay. Peut-être sur Mac, mais je crois pas. Pour l'instant, t'es sur PC. Pour l'instant, il est payant, une douzaine d'euros, mais vous pourrez. C'est en fait là, c'est une bêta. Il est en bêta pour l'instant. C'est une bêta payante. Chose assez étrange, assez bizarre. Et une fois qu'il sera sorti, il sera gratuit. Et là, on pourra acheter des cosmétiques, etc. Donc, ceux qui l'ont payé au départ gagneront des trucs pour le cosmétique, on va dire. Mais là, déjà, franchement, ça vaut le coup, les 12 euros. Les matchs s'enchaînent, il n'y a pas d'attente, il y a beaucoup de monde sur le jeu. Je pense que d'ici quelques mois, on va pas mal en parler. En tout cas, tous ceux qui sont fans de jeux de stratégie, je conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à Mechabellum. Disponible sur PC pour l'instant, effectivement. Vas-y.
Mais du coup, j'en profite aussi parce que tu parles de jeux vidéo et parce que tu parles de version bêta, etc. Pour faire juste un petit clin d'œil à un ami qui vient de sortir son jeu. C'est un jeu sur lequel il travaille depuis des années et il y a une version gratuite à tester. Donc ils attendent que les gens le testent pour avoir un peu un feedback. Le jeu s'appelle Swarm of the Sea. Donc Swarm, S-W-A-R-M, of the Sea, de la mer. Et c'est un très très beau jeu. Visuellement, en fait, lui est graphiste et il a travaillé avec d'autres personnes sur le graphisme. Mais donc, il y a une véritable volonté de travailler sur les graphismes et d'avoir quelque chose qui visuellement soit très beau. Et c'est le genre de jeu, moi, qui me plaît beaucoup. C'est une toute petite équipe de passionnés.
Alors, je le trouve pas en vidéo.
pourtant, ils ont une vidéo hein, qui est sur leur site, une
donc,
vidéo démo.
Ça s'écrit
S-W-A-R-M.
Of the Sea.
Of the Sea, de la mer.
Ouais. Swarm of the Sea.
Ah ben voilà, là,
ah, je le vois.
C'est ça, voilà.
Je le vois, hop.
Alors on a droit aux alors, pubs.
Là, ouais, donc là pour l'instant je vous épargne des pubs. Swarm of the Sea, eh ben je l'annonce, je ferai un stream dessus demain midi, ou voilà,
ah bah,
je ferai
écoute,
un petit stream,
voilà.
Comme ça, ça me permettra de tester et de dire ce que j'en pense.
Et à mon avis, serait très, très partant de venir dans l'émission, donc s'il y a des gens que ça intéresse d'avoir un créateur de jeux vidéo... qui viennent parler de son travail.
Eh ben oui, voilà. On va faire ça. C'est clair.
Alors c'est un jeu, jeu avec, il travaille avec un Belge. C'est des Français. Enfin, c'est un jeu très multiculturel.
D'accord. En tout cas, ça a l'air chouette, effectivement. Et alors le principe, c'est
cette espèce de petit personnage qui est dans des sous-marins et qui doit combattre des créatures sous l'eau. Un petit jeu de plateforme un peu à l'ancienne.
Mm-hmm. Je suis vraiment nul pour ces jeux-là, mais je vais tester quand même.
Voilà. Donc voilà.
Je vais tester ça.
J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais
on va le tester. En tout cas, on essaiera d'en reparler dans une prochaine émission.
Ouais.
J'en profite juste deux secondes pour parler de deux autres jeux que j'ai testés dernièrement, d'ailleurs, en stream sur le Twitch de L'Œil Carnivore. Donc, vous allez sur Twitch et vous tapez L'Œil Carnivore et vous trouvez le Twitch qu'on enregistre ce soir pour ceux qui nous regardent en direct. Et sinon, évidemment, en différé, il suffit de faire une recherche. Là, vous avez les let's play qu'on peut faire, les émissions, etc. Et plein d'autres choses, les directs qu'on a pu faire à partir du bif et ce genre de choses. Et donc, j'ai testé deux jeux qui étaient assez intéressants. J'ai testé, par exemple, un petit jeu qui s'appelle Chicory. Alors, Chicory, c'est un jeu où, en fait, le monde... le monde est dessiné et, en gros, toutes les couleurs ont disparu. Et on joue à un petit chien qui est un apprenti et qui a récupéré le pinceau, en fait, de la personne qui est censée donner les couleurs, peindre les couleurs. Et tout est basé, justement, sur... c'est un petit jeu d'énigmes qui est basé sur les couleurs et comment colorier, recolorier les choses, etc. C'est très joli, très mignon, chouette à jouer parce que c'est astucieux. Voilà. Je vous conseille, ça s'appelle Chicory Colorful Tale, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est fait par un certain Greg Lobanov, qui n'est pas... et Alexis, alors je regarde, Alexis Dean Jones. C'est pas leur premier film, leur premier jeu, mais c'est très très chouette. Non, mais ça fait penser, c'est parce que là je regardais ça défiler. Mais voilà, en tout cas, c'est un très chouette jeu. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Planet of Lana, qui est un jeu de plateforme. C'est pareil, c'est un jeu vraiment très très joli. Donc c'est quelque chose... c'est un jeu de plateforme énigme où on joue en fait un personnage, un enfant, qui est sur une planète, voilà, machin. Et tout d'un coup, il y a, un peu comme dans La Guerre des Mondes, des extraterrestres qui arrivent... venant du ciel, des espèces de robots, c'est pour ça que ça fait penser à La Guerre du Monde, hein, des espèces de tripodes comme ça, ouais. Et qui attaquent son village, ils enlèvent son frère, et voilà. Alors, je sais pas si on joue une fille ou un garçon, je t'avoue, j'ai pas bien saisi, mais en tout cas, c'est un jeu qui est très très joli, très mignon aussi, et bien fait. Et en plus, c'est assez court, ça dure 4 heures, donc franchement, c'est une chouette expérience à faire. Donc vous pouvez y aller, et il est dans le Game Pass pour ceux qui l'ont d'ailleurs, donc n'hésitez pas à le tester si vous avez le Game Pass. Voilà. Voilà donc Planet of Lana et Chicory, deux petits jeux bien sympas à tester avec vos enfants, vous pouvez y aller.
Contrairement au podcast du capitaine.
Contrairement au podcast du capitaine. Non, mais c'est important de le préciser. voilà, et toi, tu voulais nous parler d'une série, qui s'appelle
Mister In Between. C'est une série australienne que j'ai découvert, qui était sur Disney+. Alors, c'est une série FX de base. En gros, le pitch, c'est un tueur à gages qui est ce charmant bonhomme qui a un petit côté Walter White de Breaking Bad. Hein.
Tu dis ça parce qu'il est chauve.
Oui, mais même, c'est en fait dans le pitch, on a quelque chose d'assez similaire dans le sens où c'est quelqu'un qui a une double vie. Donc, il essaye de gérer sa vie personnelle avec sa fille, avec son ex-femme, avec sa nouvelle petite amie, etc., ses amis. Et sa vie professionnelle qui est de tueur à gages. Enfin, il n'est pas que tueur à gages, c'est aussi le gros bras, quoi. Quand il faut aller récupérer de l'argent, quand il faut aller faire comprendre à quelqu'un qu'il a fait une connerie. Enfin, voilà, c'est un peu... Et c'est un humour noir et c'est du cynisme et en même temps... Enfin, c'est brillant de décalage. Il y a des scènes incroyablement drôles. Il y a des scènes incroyablement sombres. Auquel on s'attend pas du tout. Le personnage lui-même est extrêmement cynique, hein, donc voilà. Et ce qui est très agréable, c'est que c'est 3 saisons, 26 épisodes de 20 à 25 minutes chacun, donc ça se regarde très très vite. C'est quelque chose, voilà, qu'on a vite fait de lancer un épisode en mangeant, puis un deuxième et un troisième, et hop, on s'est torché la première saison et on s'en est même pas rendu compte. Et pour l'instant, toutes les personnes à qui je l'ai conseillé l'ont dévoré en quelques jours et m'ont dit waouh, vraiment chouette. Donc voilà, je recommande. Moi, ça a été une vraie claque avec quelques bons moments d'humour noir et une fin un peu abrupte. Mais pour une fois, c'est pas une série qui a tiré en longueur. Ils s'arrêtent au moment où il faut s'arrêter, et voilà. Et le personnage principal, c'est le réalisateur d'ailleurs de la série. Donc, donc voilà, qui semble être assez connu en Australie. Moi, je le connaissais pas, mais voilà, très chouette série, vraiment facile à regarder, rapide à regarder, et pas tout public non plus.
D'accord. Ok. J'essaierai de le regarder. Je t'en dirai quoi. Voilà. Ouais. Chouette. Et bah, justement, comme on parle de personnages ambivalents, on va d'abord s'écouter un petit morceau. Je propose de faire une petite pause musicale, pas très longue, avec MC Circulaire. Alors MC Circulaire. Alors, il est connu. Il a fait un buzz. Alors, par chez moi quand j'habitais du côté de Nantes. puisque c'est un Vendéen et il se foutait de la gueule des Bretons et des Nantais, notamment. Notamment, il disait « Fais pas cake, mec, on a la brioche ». Seuls les Vendéens et les Bretons peuvent comprendre la blague. Okay. Il a été connu aussi par une chanson qui s'appelle « Sodomie », qui n'était pas de toute première fraîcheur, on pourrait le dire comme ça, mais qui qui a fait le buzz. Mais au-delà de ça, moi, je trouve qu'il est vraiment intéressant à écouter. Son rap est vaut le détour. Il y a notamment un de ces morceaux que je trouve qui est fantastique et qui est, alors évidemment là je cherche parce que je vais pas le trouver, mais qui est vraiment fantastique. Bon, je vous donnerai le titre après, je vais le chercher pendant qu'on passe celui que je veux passer maintenant. Et là il vient de sortir deux morceaux. Un morceau qui s'appelle Whitney, l'autre qui s'appelle Michel. Alors Whitney pour Whitney Houston, Michel pour Michel Sardou, sur lequel il va les utiliser comme mix pour son rap. Alors Michel Sardou, c'est vraiment pas ma tasse de thé, soyons clairs. Mais bon, voilà, MC Circulaire. C'est le rap, comme il dit, c'est le rap de Bouzeux, c'est le rap de la campagne. Version blanche, évidemment, puisque Camini avait fait ça à une époque, je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, oui.
Mais lui, c'est le rap de l'abribus qu'on tague au blanco, quoi. C'est vraiment ça, parce qu'on n'a que ça à foutre. pour tous ceux qui ont vécu en banlieue lointaine, mi-campagne, mi-ville, comprendront tout ça. Où t'attends des heures, il y a un bus par heure qui passe, quoi, c'est tout. Donc t'as pas intérêt à le louper si t'avais envie de sortir, quoi, voilà. Il faut absolument que t'aies une mobylette pour pouvoir te déplacer, quoi.
Tu vends du rêve, en tout cas.
Ah bah, complètement. Et puis, il faut voir le rad aussi. Qui vaut le détour. Donc voilà, je vous propose de vous écouter. Alors je vais pas vous la passer en entier parce qu'à la fin c'est le Connemara qui est mixé et là je vais faire une petite descente, etc. Mais je vous propose d'écouter le début et puis on se retrouve juste après.
Je rappe seul tout et surtout sur les mêmes pistes. 2 et 10 sur un gros son des 90s. Goulot ou Bédo, entre les babines, j'suis dans mon trou pourri, mais dans ma tête c'est Brooklyn. J'rappe de gros chiffres, de grosses scènes, de grosses ventes. Donc j'pose un 16 en 2,50. J'suis pas dans la revente, y'a rien à bi gravé sur le téléphone et dans la poche, gros, y'a pas cadjé. Calé dans mon bled paumé, j'crains pas la criminalité, vu que c'est moi la criminalité. C'est pour ça que j'suis pas trop apprécié. C'est pour ça que short quand ils sont rentrés. Ça sert à rien de parler, on est trop décalé. Incompatible comme Michel Sardou et Dr Dre. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Tu veux que je schématise? En gros le seul point commun qu'on a c'est la tease. Toute la journée j'écoute des mecs grimper la rue. Du coup je me demande si je suis né là où j'aurais dû. T'inquiète, on s'en balèque. Si je suis pas la voix du ghetto, je serai la voix des rednecks. Ils feront avec. Je rêve de mettre des salles à feu et à sang. Mais pour le moment le seul public que j'ai c'est mon berger allemand. Lève ton bras en l'air. Et je suis le seul à le faire, je suis le meilleur rappeur de ma ville parce qu'à part moi mien son père. La concu je l'ai jamais vue, j'ai rien à craindre, je m'allume un gros ouinge, qu'est-ce que tu croyais que moi qui peux m'éteindre? Fais pas le max si t'es un gentil garçon. Et pour jouer les bandits, là où je vis, faut de l'imagination. J'ai pas de là où il faut, j'en ai rien à branler. Je veux pas changer ma destinée, c'est tout niqué. Mais là faut que je me désaltère, parce que j'ai plus de pierre. On a pas de liqueur shop, mais y'a un bar ouvert.
Et voilà, et là vous commencez à entendre le mixte avec le Connemara derrière. Mais en tout cas, ça envoie, on voit qu'il n'a pas perdu ses dents. Non mais c'est vrai. Et ça doit faire, je ne sais pas combien d'années, 15, 20 ans, qu'il rappe, qu'il fait des morceaux et il en fait des très bien. D'ailleurs, celui dont je voulais parler tout à l'heure, c'était Demain c'est trop tard. Franchement, c'est un petit bijou. Allez l'écouter. Alors, il n'est pas disponible sur Spotify et toutes les plateformes machin. Donc, la seule solution de l'avoir, c'est via YouTube.
Ouais.
Mais écoutez, demain, c'est trop tard. C'est vraiment, vraiment bien. Là, vous...
Qui date de 2006, pour information.
Ouais, voilà. Mais qui vaut vraiment le détour. Franchement, d'abord, l'instru est vraiment bonne, et puis les paroles, etc. Quoi. Voilà. Voilà, et après cette petite pause musicale, on peut se demander pourquoi sont-ils si méchants, hein? Pourquoi ils sont si méchants, Corentin?
Parce que, comme on dirait au bif.
Bah ouais, parce que, effectivement, on sort du bif, et pourquoi est-il si méchant? Et donc nous, ce soir, on voulait vous parler notamment de du film Spider-Man Across the Spider-Verse, qu'on a vu tous les deux, et plus largement du syndrome Magneto. Donc je propose qu'on commence avec le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors on va essayer de ne pas spoiler. Mais on va être obligé quand même de parler des enjeux méchants, gentils, un peu de l'histoire. Après, c'est pas très très grave parce que le film en lui-même, il tient sur autre chose que juste, voilà, quel est le méchant,
absolument,
pourquoi.
Et dans la bande-annonce, il y a déjà beaucoup de ces enjeux qui est dévoilé, qui est expliqué et très explicité. Donc les enjeux en eux-mêmes ne spoilent pas le reste du film, je pense. Surtout si t'as déjà vu la bande-annonce.
Ouais, moi j'avoue que je l'avais pas vraiment regardé en plus la bande-annonce, mais c'est vrai que moi, j'y suis allé comme.
J'avais évité la bande-annonce et en revoyant la bande-annonce, en fait ce matin, je me suis dit, tiens, en fait elle disait quoi la bande-annonce? Je me suis rendu compte que finalement les bases étaient clairement expliquées dans la bande-annonce, quoi.
Alors bon, revenons aux bases du journalisme. Revenons aux bases du film. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est quoi? C'est le deuxième volet, on va dire, Spider-Man. On va dire la version Miles Morales, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a plein de, ouais, Spider-Man différents.
Ouais, ouais.
En fait, il y a eu, c'était, je sais plus en quelle année, en 2018.
Il est sorti.
Okay, ouais. En 2018, il y a eu Spider-Man New Generation.
Ça c'est la traduction,
oui, c'est la traduction française. Mais sinon c'était Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse, ouais.
Qui avait fait son petit effet à l'époque, franchement, et il y avait de quoi, parce que c'était rafraîchissant pour deux choses.
Honnêtement, je pense qu'en termes de films d'animation, il y a un avant et un après Spider-Man Into the Spider-Verse. En termes d'animation, hein, je ne parle pas en termes de narration ou autre, mais visuellement, ils ont ouvert quelque chose, quoi.
Alors, je ne sais pas s'ils ont ouvert quelque... Peut-être, oui, dans le blockbuster, quoi, on va dire. Parce qu'effectivement, oui, derrière, si je pense que... comment ça s'appelle, le Chaboté, le dernier... Le Chaboté 2, là, ne ressemblerait pas à ce qui ressemble sans, effectivement... le premier Miles Morales. Il y a eu 2-3 autres gros films comme ça qui sont sortis.
Là, tu vois la bande. Je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce du prochain Tortue Ninja de cette
année.
Ouais. On est dans cette esthétique-là entre animation et stop-motion et dessin, croquis. Enfin, voilà.
En fait, surtout, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une esthétique. D'ailleurs, ils explorent plein d'esthétiques dans le film, hein, dans Spider-Man, donc dans le Into the Spider-Verse et dans le Across, donc celui qui vient de sortir, Spider-Verse, y a plein d'esthétismes différents qui sont testés, explorés, etc. D'ailleurs, c'est ça qui rend aussi le truc très intéressant. Et c'est ça qui est chouette. Ça veut dire que tout d'un coup, on sort des, on va dire, certains types de canons où un film d'animation grand public, il doit ressembler à ça, ça, que ce soit en animation 3D ou que ce soit en animation pure. Et tout d'un coup, effectivement, on a un vent de fraîcheur parce qu'on peut se dire, allons-y, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et pour ça, c'est...
Sur celui-ci, ils se sont fait plaisir, en tout cas. Les animateurs, tu sens qu'ils sont lâchés, mais total, quoi.
D'ailleurs, il y avait un côté un peu trop dans le premier, qui est peut-être encore pire dans le deuxième, au niveau du nombre d'idées à la seconde qui t'arrivent en face, quoi. Qui est peut-être un petit problème, le même genre de problème qu'il y avait sur, d'ailleurs, Everywhere, Everywhere Else, All at Once. C'est-à-dire que c'est des films qui partent à fond, qui s'arrête pas. Et bah, t'as intérêt à suivre, en fait, et à accepter le, le flux, quoi. Ouais, à te laisser porter par la vague. Moi, je regarde ma fille qui a 10 ans. Plusieurs fois, elle m'a dit « Je comprends rien de ce qui se passe. M'expliquer. » Parce que c'est vrai que là, ça devient dur. Ça peut devenir dur à suivre. Mais c'est pour des amateurs, en tout cas, comme toi et moi, de graphisme. Bah, c'est un peu jubilatoire quand même.
Mais je trouve que en tout cas leur tout ce qui est Easter eggs dedans sont dosés, je trouve, assez soigneusement. C'est pas comme certains films où tu as un gros et un clin d'œil, vous avez vu, ça fait référence à ça. Je trouve que ça passe, c'est là, c'est visible, mais t'es pas obligé de le comprendre pour comprendre le reste du film, ou c'est pas tellement appuyé que ça te sort du film. Je trouve que leurs easter eggs sont « Ah ouais, ok, tu connais, tu connais pas, tu passes à autre chose. »
Alors moi, ça a applaudi dans la salle à certains easter eggs d'ailleurs.
Ouais,
je sais pas,
bon,
si
tu me diras, ça a pas applaudi, mais il y a eu quelques « Oh !» voilà. Ah non, on en parlera peut-être hors ligne de...
Ouais, attention, tu sais, fais gaffe.
On parlera peut-être un petit peu en dehors de quel, qui ou quoi ou qu'est-ce, parce que
oui, tout à fait. Mais donc moi, il y avait beaucoup de monde dans la salle et ça applaudit, etc. à certains moments, ce qui était surprenant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gens applaudir au milieu du film. Je parle pas à la fin ou quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment au milieu du film, à certaines scènes, etc. Pourquoi pas. En tout cas, moi, je veux dire, il y a deux... En gros, j'ai adoré le film. Franchement, je trouve que graphiquement, il y a plein d'idées, c'est génial, ça part dans tous les sens. Ça fait du bien parce que, à côté de ça, quand tu regardes ce que fait Marvel et DC, bah, là, c'est bien, ils osent des trucs et ils sont amoureux de la source qu'ils ont. C'est-à-dire, ils n'essayent pas de transformer Spider-Man en autre chose que Spider-Man. D'ailleurs, ça parle même du fondement de Spider-Man. Mais il y a deux regrets, donc je conseille, franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. Il y a deux regrets que j'ai, c'est un peu too much, donc pour un certain public, ça peut être rédhibitoire. Il y avait peut-être moyen de doser le truc, mais bon, voilà, après, tant mieux. Moi, je ne vais pas me plaindre. Et la deuxième chose, bah, c'est en deux parties, et là, je n'étais pas du tout au courant. Et donc, quand t'es arrivé le truc de fin et tu te dis « Ah, quoi ? Mais ça peut pas se terminer là », je t'avoue que là, je l'avais un peu mal parce que j'étais pas du tout prévenu, en fait.
Alors, effectivement, ben, je te disais un petit peu avant qu'on lance l'émission que j'avais vu la critique du Joueur du Grenier. Et j'étais assez d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Donc, je vous encourage, si vous voulez aller voir leur critique, elle est assez, je trouve, assez bien construite. En fait, ils disaient, alors, de deux choses l'une. S'ils avaient dit part 1, part 2, est-ce qu'il n'y avait pas un risque de perdre une certaine audience de gens qui se disaient « Oh, pff, ça sort en deux parties, je verrai tout quand ça sortira sur Disney+, ou Netflix ou autre. » Enfin, voilà, il y a peut-être ça aussi.
En même temps, c'est du... Et tu vois le côté, bah, les notes qui se payent, etc. Deux, c'est un film de cinéma, il faut le voir au cinéma.
Oui.
Trois, c'est pas la première fois qu'on a des films en plusieurs parties, Seigneur des Anneaux et X ou Y.
Non, franchement, mais ça reste des films... Quand tu... En fait, oui, mais pas chez Marvel. En fait, si tu regardes chez Marvel, même Infinity War et Endgame peut se terminer. On a une narration, on a quelque chose, on a une fin, bonne, mauvaise, peu importe. Ici, on arrive, ça se termine au climax, comme un épisode de série. Ouais.
Ah bah, c'est clair, t'as envie de voir la suite.
Ah oui, t'es coupé dans ton élan, et au moment où tu dis, mais enfin...
Et puis surtout, voilà. Alors, sans spoiler, ils arrivent à... Et c'est là où je me disais, mais comment ils vont réussir à résoudre tout ça avant la fin du film? Je ne comprenais plus, au bout d'un moment, pareil. Je me disais, mais... Mais là, il y a un problème, il ne faut jamais réussir à résoudre tout. Mais surtout, c'est qu'à la fin, arrive un certain nombre de nouvelles annonces, quelque part, très bien trouvées, typiquement dans l'esprit du comics, des comics. C'est ça qui est très bien aussi, c'est qu'ils ont réussi à... pour moi, comment dire, c'est un des problèmes des adaptations de comics en live. Et je ne sais pas pourquoi en live ça pose problème, alors qu'en dessin animé, tu regardes les DC Warner, ils sont vachement bien, par exemple. Donc, je comprends pas pourquoi le live. C'est pareil, c'est un des problèmes qu'on peut retrouver sur une série comme The Witcher, etc. Tu as l'impression que ceux qui doivent, les showrunners, quelque part, parce que c'est comme des séries, hein, les films là, des Marvel ou des DC, ils sont traités comme des séries, quasi. t'as vraiment l'impression qu'ils ont, ils sont obligés d'y apporter un côté réaliste, comme s'ils aimaient pas le matériau de base, qui est quand même des mecs en collant, les trois quarts du temps. Donc, à partir de là, bah, tu dois faire avec. Ok, c'est des mecs en collant, mais c'est pas grave. Bah, tu vois, je veux dire, vas-y, joue-le pleinement. Tim Burton, quand il fait Batman, il le rend pas plus réaliste. Il joue avec l'atmosphère, il te met un univers gothique, il te le joue à la série animée des années 90 de Batman, et puis il y va à fond. Je comprends pas ce besoin tout d'un coup de... C'est comme s'ils aimaient pas le matériau de base, qui est pourtant complètement malléable, tu peux faire ce que tu veux en plus avec. Ouais. Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais...
Oui, bah c'est vrai que c'est une vraie question. Après, je pense qu'il y en a qui ont essayé et que ça s'est pas forcément bien passé quand ils ont essayé d'aller trop dans le cliché du super-héros ou dans la tenue du super-héros. Tu regardes notamment Green Lantern, bon, il y avait un problème d'effets spéciaux, de storytelling, etc.
Non, l'histoire est nulle à chier, ça tient pas deux secondes.
Quand ils ont essayé le Superman, celui où il y a eu Kevin Spacey qui jouait Lex Luthor, ils ont vraiment pris des personnages de bande dessinée, ils ont rasé le crâne de Kevin Spacey, ils ont vraiment mis le collant avec le slip sur Superman, enfin ils ont vraiment tout fait à fond, le film s'est quand même planté, donc je pense qu'ils ont peut-être eu des mauvaises expériences dans le passé, ils se disent oh là...
Ouais, mais tu regardes les Spider-Man de Sam Raimi...
Voilà.
Et c'est du pur comics, alors c'est là où c'est vachement fort, c'est que c'est vraiment... C'est pas seulement... en fait... Sam Raimi a vraiment réfléchi comment adapter le comics au cinéma, comment faire du comics au cinéma. Et quand vous regardez vraiment le film, vous vous rendez vraiment compte du travail qu'il a fait pour rendre cette... c'est pas juste je te prends le personnage et je t'en fais un film, c'est comment j'arrive à faire du comics au cinéma. Et c'est ça qui marche. D'ailleurs, une des différences entre le Spider-Man de Sam Raimi et puis les autres derrière, c'est que les gens autour existent dans le Spider-Man de... le méchant, il risque de détruire. C'est pas juste qu'il va détruire la Terre ou machin. Ils sont physiquement présents là, en fait. Je sais pas comment dire.
Comme avec Andrew Garfield, où ils vont se battre dans une centrale électrique très loin de tout le monde, et il y a le méchant, Spider-Man et Gwen. Et voilà.
Non, mais c'est vraiment... Ça rend l'utilité du super-héros tangible, qui vit au milieu. Alors, c'est un peu le principe de Spider-Man, on est bien d'accord. Hein. C'est la double identité, comme Superman, aussi. Normalement, c'est ça. Superman, ils ont essayé d'en faire un tout autre personnage que ce qu'il est à la base, normalement. Mais bon, après, chacun peut faire...
Bah, en tout cas, moi, ce que j'aimais bien, et encore une fois, je vais reciter le joueur du grenier, enfin, c'est Seb, le pote de Fred du joueur du grenier. Il disait, en fait, que ce que moi j'ai aimé en sortant de ce film, de ce Spider-Man-ci, c'est que je sens qu'on m'a respecté. En tant que spectateur, en tant que fan de comics, on m'a respecté et ça fait du bien. Tu sors de là en disant, ok, on sent que ceux qui ont fait ce film, ils connaissent l'œuvre, comme tu le disais, ils respectent l'œuvre originale, ils ont su en faire quelque chose, ils ont su donner l'aspect bande dessinée avec des moments où tu as des split screen ou des choses comme ça, mais de façon intelligente, pas comme ils avaient fait dans l'horrible Hulk, où je sais pas si tu te rappelles, où ils faisaient vraiment des...
Alors c'est celui d'Ang Lee, et moi j'ai un faible pour Ang Lee.
Oui,
alors,
Ang
Lee, c'est celui qui a fait Tigre et Dragon, c'est celui qui a fait l'Odyssée de Pi, c'est celui... à l'heure actuelle, il fait des essais au niveau de la 3D, fantastique, bon, peu importe. Et donc, moi, j'ai un fait pour Ang Lee, donc ce Hulk, avec tous les problèmes qu'il peut avoir, j'ai un fait pour lui. Je préfère 10 fois celui-là à celui qui a été fait après, en fait.
Celui avec Edward Norton.
Ouais, voilà. Je trouve parce qu'il a des défauts, mais quelque part il est dans le comics. Pareil, il respecte quelque part. Il en fait pas autre chose. Ça reste du comics, tu vois. Je te prends pas juste un personnage et je t'en fais un film avec, mais comment je vais réussir à transcrire le comics au film. Après, tu peux te planter, on est d'accord. Mais voilà, je trouve qu'au moins, il a essayé, quoi. Voilà.
Ouais. Je vois le temps qui passe, l'air de rien.
Oui, le temps passe, effectivement. Et en fait, alors, je vais vous expliquer. Dernièrement, alors, il y a Bolshegeek. Je ne sais pas si tu connais Bolshegeek.
Du tout.
du tout. Alors, Bolcha Geek, c'est un YouTuber, à la base, je crois. Il fait du Twitch aussi, etc. Comme son nom l'indique, c'est un YouTuber plutôt de gauche. Okay. Ouais. Geek. Voilà, Bolcha Geek, et qui analyse notamment pas mal d'objets de la pop culture et surtout du comics et du jeu vidéo, et etc. Parce que bah, voilà, c'est ses marottes. Et il avait fait, il y a de ça quelques années, je crois à peu près 3 ans, le syndrome Magneto. Et si Magneto avait raison, c'est notamment un t-shirt qu'on peut, vous avez peut-être vu, porté par certains, avec ce côté, bah voilà, est-ce que Magneto pourrait avoir raison ? Et il vient de sortir un livre qui s'appelle, alors j'ai tout d'un coup un trou de mémoire, mais c'est, et si les, je crois que c'est « Et si les méchants avaient raison », quelque chose comme ça, le syndrome Magneto, voilà. En gros, ça se pose la question... finalement, est-ce que le méchant n'est pas le personnage le plus intéressant dans ces histoires de comics ? Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, à mon avis, Batman est un des super-héros les plus intéressants. Pourquoi ? Parce qu'il a les meilleurs méchants, de manière générale.
Je pense que c'est même pas un débat, ça.
Voilà, c'est, je veux dire... d'ailleurs, si vous regardez les productions Marvel ou DC, je vous mets au défi de citer les méchants. À part Thanos, peut-être. mais non, mais c'est fou.
Non, mais c'est vrai.
Et donc, ce qui fait que, quelque part, bah, ça pose un problème, quelque part. De... Alors que, tiens, on parlait des Spider-Man, le premier, tu sais que c'est le bouffon vert, il n'y a pas photo, quoi. Tu te souviens du bouffon vert, quoi. Ouais. Et donc, on a cette questionnement. Alors, il vient de sortir un livre. Il a été interviewé par David Dufresne sur Twitch, et vous pouvez retrouver la vidéo de l'interview qui dure à peu près 2 heures et quelques sur Blast. Alors Blast, c'est pareil, c'est une chaîne YouTube qui parle de politique et de plein de choses, etc. Et bah voilà, vous pouvez retrouver. Alors c'est une très bonne chaîne, hein. Franchement, allez-y, mangez-en. Si vous connaissez pas, vous allez découvrir tout un univers. Il y a Paco Mtilman notamment qui fait des vidéos dessus, qui s'appelle Infernet. Sur justement Internet et tous les problèmes des réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas trop digresser parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ouais. Il fait aussi la fin du film qui est géniale. Bah, allez-y, pas comme Tillement, j'adore. Je ferai tout un épisode là-dessus, un de ces quatre. J'espère un jour pouvoir l'interviewer d'ailleurs. Il y a aussi les interviews de David Dufresne. Il y a aussi Paloma Moritz et Salomé Sake qui sont deux jeunes journalistes fantastiques qui parlent d'économie et d'écologie de manière magistrale. Allez-y, mangez-en. Si vous ne connaissez pas, allez vraiment sur Blast. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et donc, cette histoire des méchants. Et si Magneto avait raison ? Alors, Magneto, pour ceux qui ne connaissent pas, on va essayer de faire très vite parce qu'on manque de temps. Si Magneto avait raison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, dans les X-Men, y a le professeur Xavier et il y a Magneto. C'était des amis, en gros, hein, c'est ça. Et en gros, c'est un choix. Comment réagir face à ceux qui ont peur des mutants ? Parce que les X-Men, c'est des mutants. En gros, hein, c'est le principe. Ouais. Et en gros, on pourrait retrouver une sorte de parallélisme avec Malcolm X il me manque l'autre en face.
Luther King.
Martin Luther King, voilà, exactement. On pourrait trouver une sorte de parallélisme un peu entre les deux. C'est difficile, justement, de se dire qui a raison, comment. En fait, il y en a un qui décide d'utiliser la lutte armée et l'autre pas, en fait, quelque part.
Ouais. Oui, c'est ça.
Et même, tu peux aller même plus loin, parce que là, on parle de Magneto, etc. Mais le héros, qu'est-ce qu'il fait de manière générale ? Le héros, il maintient le statu quo. On le voit d'ailleurs dans Thanos, les Marvel. Thanos, il arrive, il dit, il y a un problème de surpopulation, vous allez consommer toutes vos ressources, il faut... en gros, moi, j'ai une solution, je supprime la moitié de l'humanité, la moitié même de... tous les êtres vivants, comme ça évitera qu'on pompe toutes les ressources et ça permettra d'aller plus loin, etc. Qu'est-ce que font les héros ? Ils l'empêchent, ils maintiennent le statu quo, sauf que, alors ça veut dire quoi ? Parce qu'en fait, ils offrent aucune réponse. au problème que pose Thanos. C'est-à-dire, il l'arrête, d'accord ? Mais ouais. Au final, on se retrouve avec le même problème au départ. Donc, on ne sait pas si finalement le monde est condamné ou pas. Et de manière générale, la plupart des histoires de super-héros, bah, c'est un peu le principe. Le méchant arrive. Alors, évidemment, hein, tous les méchants n'arrivent pas avec un plan, etc., tout ça. Mais le méchant arrive et le héros l'arrête. Et puis c'est tout. Ouais. Il maintient le statu quo. Est-ce que justement le héros est pas plutôt de droite, conservateur, réactionnaire? Il y a toute une logique aussi qu'on peut lire comme ça. Finalement, est-ce que c'est pas le méchant qu'on diabolise qui finalement aurait raison? C'est un peu le côté, le syndrome Magneto. Et si les méchants avaient raison? Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
C'est vrai que c'est un. Il y a pas mal de films où les motivations du méchant, c'est une vraie question. C'est pourquoi est-ce qu'il est méchant et il a pas tout à fait tort dans ça. Après, je pense que, comme tu disais, Thanos, c'est une belle représentation de ça aussi, à un autre niveau. Mais après, on voit Namor, par exemple, dans le dernier Black Panther, qu'on est aimé ou pas le film, mais son but c'est de protéger son peuple. Donc ça part d'une intention noble quelque part, c'est de protéger les siens. Et je pense que c'est là où il y a toujours les débats. Finalement, Magneto et Xavier, ils sont d'accord sur le même point. Il faut protéger les mutants, il faut protéger les nôtres. Ils sont pas d'accord sur la méthode. Et c'est en ça qu'ils diffèrent.
Oui, mais alors bon, c'est clair que le professeur Xavier, il agit quelque part pour le bien des mutants, donc ça c'est plutôt un héros agissant. Mais quelque part, s'il y a pas Magneto, alors le professeur X, qu'est-ce qu'il ferait? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, c'est grâce à Magneto que finalement les mutants et le professeur X peuvent apparaître comme les bons, tu vois.
Oui.
Et donc peut-être être accepté. Et donc quelque part, ce que fait Magneto est nécessaire.
Ouais. Oui, c'est un vrai sujet de philos, hein. C'est un sujet de bac, ça.
C'est un sujet de bac. Non, mais et en plus, on peut vraiment se poser la question de quelle manière on perçoit, alors là, évidemment, les méchants dans les histoires. Alors, les comics, bah, c'est facile parce qu'il y a ce genre de choses. Mais effectivement, on voit bien que la propagande, il suffit de regarder la première guerre mondiale, par exemple, la diabolisation de l'adversaire et tout ce que ça peut créer comme truc, etc. On peut voir là les écolos qui peuvent être taxés d'éco-terroristes, alors que ils vont empêcher qu'on construise, si on prend Sainte-Soline, ils vont juste empêcher qu'on construise une bassine et ça devient des éco-terroristes, un terme qui est complètement fou, quoi. Voilà, il y a des choses, je pense qu'il y a des raisonnements, ça peut résonner à l'intérieur de nos propres vies à l'heure actuelle, quoi.
Ouais, non,
voilà. Absolument. On arrive à la fin de l'émission. Donc, on aurait pu en parler beaucoup plus, mais voilà, on s'est étalé sur d'autres choses. Désolé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, d'ailleurs, dans les commentaires de l'émission, de cette problématique. Est-ce que pour vous, les méchants, justement, c'est pas les plus intéressants et finalement, c'est pour ça qu'on retient un film et. Hitchcock disait que ce qui est très intéressant, c'est les méchants.
S'il n'y a pas de situation problème dans un film, le film n'a pas d'intérêt. Et oui, la situation problème est amenée par le méchant.
Tout à fait. Donc, voilà, notre émission se finit ici.
Et on diffusera le championnat de Belgique de air guitare.
Oui, c'est ça, mais on a oublié d'en parler. Oh là là, ouais. On va diffuser, effectivement, le 24, le championnat de Belgique d'air guitare. Venez nombreux sur place. N'hésitez pas à participer si vous n'avez pas peur de vous retrouver sur scène devant plein de personnes. Et sinon, venez voir les performances ou alors venez sur le Twitch de l'œil carnivore pour regarder ça en live. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve en septembre normalement parce que c'est la dernière émission de cette année. Passez de très bonnes vacances et puis
une bonne soirée, encore une fois.
Voilà, une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.
Salut.